Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide. Bonjour, bonjour, je suis Diane et vous écoutez La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme fil par fil. Aujourd'hui, on éteint la lumière, on sort le pop-corn, mais on garde l'œil bien ouvert. Parce qu'on va parler cinéma et séries. Quand on regarde un film, un de nos réflexes est de se dire « ce n'est que de la fiction ». Sauf qu'en réalité, ces histoires ne font pas que nous divertir. On les regarde, on les absorbe, on les rejoue parfois sans s'en rendre compte. Elles façonnent ce que l'on trouve normal, désirable, romantique, acceptable. Bref, elles fabriquent nos imaginaires. Et pour comprendre à quel point, il existe un outil très simple. Le test de Bechdel. Il a été imaginé en 1985 par Alison Bechdel dans une BD à origine humoristique. Pour qu'un film réussisse le test, il faut trois choses. Au moins deux personnages féminins dans le film, qui ont un prénom, qui se parlent et qui parlent d'autre chose que d'un homme. On est d'accord, c'est le minimum du minimum. Et pourtant, environ 40% des films ne passent pas le test. Ça veut dire que dans une énorme partie des récits, les femmes n'existent pas vraiment pour elles-mêmes. Elles gravitent autour des hommes, elles soutiennent, elles attendent, elles déclenchent parfois l'histoire, mais elles ne sont pas le centre de leur propre vie. Et là, forcément, une question se pose. Mais qui raconte ces histoires ? Parce qu'en France aujourd'hui, à peine un quart des films sont réalisés par des femmes. Donc, quand la majorité des récits sont écrits et filmés par des hommes, le regard dominant devient masculin. On en avait déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le male gaze, une manière de filmer où les femmes sont regardées comme des objets. On cadre leur corps, on fragmente, on sexualise, on observe. Elles sont présentes à l'image, mais rarement du point de vue de ce qu'elles vivent. À force, ce regard devient une norme. On finit par voir le monde comme la caméra nous a appris à le voir. À l'inverse, on parle de female gaze. Et ce n'est pas juste inverser les rôles. Ce n'est pas objectifier les hommes à leur tour. C'est changer de perspective, filmer depuis l'intérieur, donner accès aux émotions, aux sensations, à la subjectivité, montrer ce que ressent un personnage, pas seulement comment il est perçu. Et ce changement de regard n'est pas anodin, parce qu'il transforme les modèles que l'on voit à l'écran, et donc ceux que l'on intègre dans la vraie vie. Je vous donne quelques exemples de films, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Sibylle de Justine Triet ou encore La leçon de piano de Jane Campion. Petite info supplémentaire, un homme peut réaliser un film avec un female gaze et une femme un film avec un male gaze bien sûr. Je vous donne aussi un exemple très concret de cet impact, de cette vision. C'est ce qu'on appelle l'effet Scully. Dans les années 90, le personnage de Dana Scully dans X-Files, qui était donc une scientifique brillante, rationnelle, crédible, a marqué toute une génération. Résultat, les femmes qui regardaient la série avaient environ 50% de chances en plus de s'orienter vers des carrières scientifiques. Une fiction, un personnage et des trajectoires de vie qui changent. Ça montre bien que ce qu'on voit à l'écran ne reste jamais complètement à l'écran. Sauf que le problème, c'est que beaucoup des modèles proposés sont problématiques. Comme le dit la journaliste Chloé Thibault, on a été éduqués à désirer la violence. On nous a appris que l'amour, c'était insister, que séduire, c'était forcer un peu, que la jalousie était une preuve d'attachement. Regardez dans Grise, Sandy change complètement pour plaire à Dany. Dans Twilight, Edward surveille, contrôle, s'impose et s'est présenté comme romantique. On transforme des comportements toxiques en grandes histoires d'amour. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond, ce qu'on appelle la culture du viol. Ce terme ne désigne pas seulement les agressions sexuelles. Il désigne un ensemble de normes, de récits, de représentations qui banalisent ou justifient ces violences. Quand le cinéma nous montre que le non est un jeu, que l'homme doit insister pour conquérir, que la femme finit toujours par céder, Il contribue à créer un imaginaire où la contrainte devient acceptable. La domination devient séduisante et le consentement clair, enthousiaste et réciproque paraît presque fade, presque moins cinématographique. Et ces imaginaires ont des conséquences très concrètes. L'historienne Lucille Pétavin a estimé que les comportements liés à la virilité, violence, prise de risque, délit, coûtent 95,2 milliards d'euros par an en France. Parce qu'on apprend encore aux hommes que pour être un homme, il faut dominer, prendre des risques, ne pas montrer de vulnérabilité. Et cette injonction, elle est nourrie partout, y compris dans les films et les séries qu'ils regardent en grandissant. Heureusement, les choses commencent à bouger. Le mouvement MeToo a aussi secoué le cinéma. En France, des actrices comme Judith Godrèche ont pris la parole pour dénoncer les violences et les abus de pouvoir sur les plateaux. On réalise que derrière certaines œuvres, il y avait aussi des rapports de domination très réels. Le mythe du réalisateur tout-puissant, intouchable au nom de l'art, est en train de s'effriter. Et avec lui, une certaine manière de raconter les histoires. Au fond, détricoter la fiction, ce n'est pas arrêter d'aimer le cinéma. C'est comprendre que nos désirs, nos attentes, nos normes ne tombent pas du ciel. Ils sont nourris par des milliers d'heures de récits. Et que si on change ces récits, alors on ouvre la porte à d'autres possibles. Des relations sans domination, des personnages féminins pleinement sujets, des masculinités moins enfermées dans la performance. Changer de regard sur nos écrans, ce n'est pas anodin. C'est peut-être le début d'un changement beaucoup plus large dans nos vies. Allez, on respire, on continue de détricoter. Parce que la pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.
Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un. Pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.